Bonjour, au micro Idrissa Seboudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Les États-Unis ont franchi hier le seuil des 100 000 décès liés au coronavirus pour près de 1,7 million de cas, tandis que l'Europe dévoilait un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros de son économie qui, comme celle du monde entier, s'est effondrée sous l'impact de l'épidémie. Washington DC, la capitale fédérale américaine, amorce à son tour dès demain son déconfinement avec l'ouverture des salons de coiffure et des terrasses de restaurants. L'Asie semble en bonne voie vers une sortie de crise, mais l'Amérique du Sud, avec surtout le Brésil, devient un nouvel épicentre de la pandémie. Et à travers le monde, la barre des 350 000 morts a été franchie hier, dont plus des trois quarts en Europe et aux États-Unis. Les conséquences économiques de la pandémie pourraient pousser jusqu'à 86 millions d'enfants supplémentaires dans la pauvreté d'ici la fin de l'année, selon une étude conjointe de l'ONG Save the Children et de l'UNICEF. Près des deux tiers de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Le Sénégal et le Tchad, tout comme l'Algérie, vont continuer à traiter les malades du Covid-19 avec de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, malgré la publication récente d'une nouvelle étude concluant à leur utilisation inefficace, voire néfaste, on dit mercredi à l'AFP des responsables sanitaires. Au Gabon, le ministre de la Santé, Max Limoukou, a convoqué pour ce jeudi une réunion d'experts et de responsables pour une décision sur le même sujet. En Guinée, les autorités ont admis pour la première fois que des violences coïncidant avec un référendum contesté avaient fait 30 morts dans le sud fin mars et en ont imputé la faute à l'opposition qui dénonce une manœuvre. Ce bilan est du parquet général de Cancan sur les événements du 22 mars à Zérékoré. Le collectif de l'opposition, le FNDC, a pour sa part parlé d'au moins 66 morts. Au Mali, le gouvernement s'en est pris durement mercredi en partenaire significatif de l'effort de paix dans le pays en guerre, la coordination des mouvements de l'Azawad accusant la CMA, je cite, d'actes attentatoires à la souveraineté nationale, et ce en violation flagrante des termes de l'accord de paix d'Alger. Le gouvernement cite aussi les nombreux obstacles érigés à la présence de l'armée malienne revenue le 13 février à Kidal que la CMA contrôle. Au Niger, une organisation de la société civile a exigé mercredi que lumière soit faite dans la médiatique affaire des surfacturations et des livraisons non effectuées lors d'achats d'équipements militaires ces dernières années. Pour Maman Kaka Touda, un responsable d'Alternative Espace Citoyen, l'argent indûment perçu doit être remboursé et les coupables doivent aussi répondre pénalement de leurs actes. Le président américain Donald Trump a menacé mercredi de fermer des plateformes de réseaux sociaux après le signalement la veille par Twitter de certains de ses messages comme trompeurs. Une initiative inédite qui n'a pas empêché une nouvelle avalanche de tweets furieux du président américain, reprenant parfois des informations non vérifiées. M. Trump signera ce jeudi un décret portant sur les réseaux sociaux, a déclaré à des journalistes sans autre précision une porte-parole de la Maison-Blanche. Par ailleurs, à Minneapolis, dans le Minnesota, la famille de George Floyd, l'Américain noir décédé après une arrestation violente, dont la vidéo est devenue virale, demande que les policiers impliqués soient inculpés pour meurtre. La mort de Floyd a provoqué la colère dans cette ville, où pour le deuxième jour consécutif, des manifestants se sont rassemblés à l'endroit où il a été arrêté pour demander que justice soit faite. Après une journée de suspense, le premier vol habité de la société américaine SpaceX a été reporté de mercredi à samedi en raison du mauvais temps alors que deux astronautes de la NASA étaient déjà installés dans la capsule au sommet de la fusée qui devait les lancer vers la station spatiale internationale. La suite de nos informations. Au Burkina Faso, sans faire d'autopsie, la justice assure que les 12 personnes retrouvées mortes dans une gendarmerie n'ont pas été tuées par balles. Des proches des victimes affirment le contraire. Le point avec Michel Joseph.
Ces 12 personnes n'ont pas été tuées par balles, a affirmé Rasmane Bikianga, procureur général de la cour d'appel de Fadangourma. Seule une autopsie pouvait révéler les causes exactes des décès. Malheureusement, l'autopsie n'a pas pu être faite, a ajouté Judicial Kadeba, procureur du tribunal de grande instance de Fadangourma. Il a annoncé le 13 mai la mort de 12 détenus dans leur cellule de la gendarmerie de Tanwalbougou, dans l'est du pays, sur 25 personnes arrêtées pour suspicion de faits de terrorisme. Selon des proches des victimes, dont un député, ces 12 civils pris dans une rafle ont été exécutés sommairement d'une balle dans la tête. Le président Roch Marc-Christian Kabore a jugé samedi cette situation inacceptable et a promis des décisions sans état d'âme à l'issue des enquêtes.
Le Sénégal va donc continuer à traiter les malades du Covid-19 avec de l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier malgré la publication récente d'une nouvelle étude concluant à son utilisation inefficace, voire néfaste. Le point avec Ekia Badou.
Le traitement avec l'hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, a écrit le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Le Gabon aussi va continuer à l'administrer aux malades hospitalisés avec l'antibiotique azithromycine, comme le font les praticiens sénégalais. En Algérie, un responsable sanitaire a indiqué que son pays ne va pas renoncer à la chloroquine et le Brésil affirme son intention de continuer à le recommander. Le président Donald Trump avait déjà vanté les mérites de ce médicament antipaludique contre le Covid-19. Cependant, une étude menée sur près de 15 000 malades et publiée vendredi dans la prestigieuse revue médicale The Lancet montre que la chloroquine et son dérivé augmentent le risque de décès et d'arythmie cardiaque. La France a décidé mercredi de l'interdire comme traitement contre le coronavirus. Par précaution, l'OMS avait déjà suspendu les essais cliniques qu'elle menait dans plusieurs pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour d'appel de Paris a refusé hier de remettre en liberté Félicien Kabuka, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda. La Cour a voulu se donner le temps d'examiner la question de sa remise à la justice internationale qu'il refuse. Eric Manirakidza.
Ses avocats ont invoqué son âge et son état de santé pour soutenir leur demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence chez un membre de sa famille. Mais la Cour a rejeté leurs arguments et suivi les réquisitions du parquet général qui craignait une nouvelle fuite et un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en cas de libération. Le reste de l'audience a été consacré à examiner la validité du mandat d'arrêt émis par le mécanisme des tribunaux pénaux internationaux, la structure chargée d'achever les travaux de l'ex-tribunal pénal international pour le Rwanda et son éventuelle remise en liberté. Le reste de l'audience a été consacré à examiner la validité du mandat d'arrêt émis par le mécanisme des tribunaux pénaux internationaux, la structure chargée d'achever les travaux de l'ex-tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR et son éventuelle remise à son siège d'Arusha en Tanzanie ou à son antenne l'AE. La Cour a mis sa décision en délibéré au 3 juin. Félicien Kabuga vivait caché en France à Asnières-sur-Seine, à l'ouest de Paris, avec le soutien de sa famille sous le pseudonyme d'Antoine Tunga. Il a été arrêté le 16 mai après 25 ans de cavale.
La Minute Écho, Nani Talani.
Accusé de détournement de fonds, l'ex-ministre de la Défense du Burkina Faso, Jean-Claude Bouda, a été écroué à la maison d'arrêt de Ouagadougou suite à une plainte du Réseau national de lutte anticorruption qui l'accuse d'enrichissement illicite. Après sa prise de fonction, M. Bouda a construit une maison évaluée à près d'un demi-milliard de francs CFA. Selon le réseau, ni les ressources que M. Bouda avait déclarées ni son salaire ne lui permettent un tel achat. La compagnie aérienne nationale égyptienne Égyptair payera désormais 75% des salaires de ses équipages en livres égyptiennes et les 25% restants en dollars américains. D'ordinaire, la société paye ses pilotes et son personnel navigant exclusivement en dollars américains. La compagnie explique que la décision est motivée par l'impact du coronavirus. Elle est temporaire jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Elle permettra à Égyptair de payer d'abord ses obligations et de rembourser des prêts en devises étrangères. Pour terminer, les constructeurs automobiles alliés Renault, Nissan et Mitsubishi vont viser prioritairement la rentabilité et la compétitivité et mettre fin à la course au volume. La nouvelle stratégie prévoit de développer et produire près de 50% des modèles des trois sociétés à l'horizon 2025. Par ailleurs, Nissan et Renault doivent dévoiler respectivement jeudi et vendredi des plans sévères incluant des fermetures de sites et des suppressions d'emplois à cause du Covid-19.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Prince Bambo, un membre de la commission médicale de la CAFA, a révélé avoir conseillé à cette instance l'annulation de toutes les compétitions organisées sous l'égide de la CAF. Outre les compétitions interclubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, nous avons conseillé au comité exécutif d'annuler tous les tournois, y compris le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 au Cameroun, qui devait se dérouler en avril dernier, a-t-il indiqué à la radio ghanéenne Joy FM. Ce responsable médical a soutenu vouloir préserver les joueurs des risques d'infection par le coronavirus. Au Nigeria, la prolongation de contrat du sélectionneur Gernot Rohr est effective. L'annonce a été faite par Amadou Pinnick, président de la Fédération nigériane de football. Je suis heureux d'annoncer que la Fédération nigériane de football et l'entraîneur Gernot Rohr ont conclu toutes les discussions contractuelles. Il restera entraîneur des Super Eagles, a écrit Pinnick sur Twitter. Les objectifs autour de cette nouvelle entente sont clairs. Gernot Rohr devra qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2022 et remporter la CAN 2021. En Angleterre, la Premier League a fait un grand pas vers un redémarrage du championnat. Elle a voté à l'unanimité en faveur d'une reprise des entraînements avec contact. Les clubs pourront désormais s'entraîner en groupe et avoir recours aux tacles, tout en continuant à limiter toute proximité qui ne serait pas nécessaire, explique la Premier League qui avait autorisé la semaine dernière les entraînements sans contact et par petits groupes de 5. La Ligue va maintenant entrer dans la phase concrète de planification des 92 matchs restants à disputer pour terminer la saison. Les négociations débutent aujourd'hui avec les diffuseurs. Plusieurs voix, comme celle de l'entraîneur de Newcastle, Steve Bruce, ou du syndicat des joueurs, réclament cependant au moins un mois d'entraînement complet, ce qui repousserait au week-end du 26 juin le retour du football dans le pays qu'il a créé. Et pour finir, la boxe de retour à Las Vegas, ici aux États-Unis, la commission athlétique du Nevada a donné son feu vert pour la tenue de combat organisée à huis clos, début juin à Las Vegas. Deux soirées auront lieu les 9 et 11 juin au MGM Grand. L'affiche attendue est celle du 9 juin chez les poids plumes entre l'Américain Shakur Stevenson, invaincu en 13 combats dont 7 KO, et le Portoricain Félix Caraballo, 13 victoires, 1 défaite et 2 nuls. Les arts martiaux mixtes ont aussi reçu le feu vert pour se tenir à huis clos. L'UFC pourrait ainsi proposer une soirée de combat le samedi 6 juin avec pour affiche un affrontement chez les welter entre l'Américain Tyron Woodley, ancien champion de la catégorie, et le Brésilien Gilbert Burns. L'instance a été la première à organiser des événements sportifs au début du mois en Floride.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus. Aujourd'hui, VOA Afrique. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les malades guéris du Covid-19 sont stigmatisés et marginalisés par leur entourage et quelquefois par leurs propres parents. Même certains agents de santé qui ont été contaminés en plein exercice de leurs fonctions ne sont pas épargnés. Des malades guéris sont rejetés par leur famille et trouvent refuge dans les lieux de culte. De N'Djamena, notre correspondant, André Kotmadjinga.
Toutes les fois que je sors au quartier, les gens m'appellent coronavirus, Covid-19, et puis voilà, en termes de moquerie. Et j'ai vraiment honte de moi-même.
Mathias Durand, étudiant en quatrième année de droit à l'université de N'Djamena, il avait été déclaré positif au Covid-19 après avoir été en contact avec un malade dans un hôtel de la place. Après une prise en charge rapide, il vient d'être déclaré guéri par les autorités médicales. Attestation en main, il devient SDF, sans domicile fixe.
Je suis rejeté par ma famille qui s'est dit avoir subi beaucoup de préjudices à cause de moi. Donc je quittais ici, venir à l'église, trouver mon pasteur qui m'a aussitôt accordé l'hospitalité. Mais ce que j'aimerais demander au gouvernement, c'est d'accorder vraiment une protection juridique en faveur des personnes qui sont victimes du Covid.
Abazen, oncle de la victime, affirme que sa famille était confinée à cause de lui pendant 14 jours et il considère cela comme une humiliation.
Pendant le mois où nous on était confinés, les gens m'appelaient partout que j'ai des malades chez moi. Mais malades, est-ce qu'ils sont guéris? Moi, j'ai quel malade chez moi.
Est-ce que Covid-19 est une maladie de honte?
Non, c'est la manière où il est parti. C'est ça qui m'a simplement découragé. Sinon, moi, je ne peux pas dire que Covid-19 est une maladie de honte, non.
Profitant de la fermeture de lieu de culte, Mathias Durand a élu domicile depuis plus de 3 semaines dans une église de la place.
Je l'ai accueilli parce que c'est un humain aussi comme moi. Je n'avais peur de rien.
Bamaré Jacques, apôtre de l'Assemblée évangélique des Pentecôtes du Tchad, il dit avoir accueilli le jeune homme par compassion.
Si je le rejette, ça veut dire que je n'accomplis pas ma mission. Et encore pas avoir confiance à ceux qui l'ont traité, les médecins qui l'ont donné l'attestation attestant qu'il est guéri. Aussi, il faut reconnaître que Corona n'est pas au-dessus de Dieu aussi, parce que Dieu qui détient le souffle de vie. Je lance l'appel à tous les frères, à tous les Tchadiens, ceux-là, pour ne pas jamais rejeter.
Comme lui, Mangel Souban, béni technicien supérieur en soins infirmiers guéri après s'être infecté dans le cadre de la prise en charge d'un patient qui avait cette maladie, affirme à VOA Afrique qu'il est souvent stigmatisé par ses collègues.
Il se méfie de moi, d'autres m'appellent Corona. Même hier, j'étais au boulot, il y a un infirmier qui m'a appelé Corona. J'étais choqué. Aujourd'hui même, je suis allé pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait du mal pour qu'on m'appelle Corona? Il continue à m'appeler Corona. J'étais découragé, j'ai compris que c'est par l'ignorance. Il n'a pas la déontologie médicale. C'est pour cela qu'il m'a appelé en vue de me décourager.
Pour Bessimbaï Natla, au chef de service du laboratoire à l'hôpital général de référence nationale, ces personnes guéries ne présentent aucun risque pour leur entourage.
À ma connaissance en virologie, lorsque tu fais une maladie et que tu es guéri par réaction anticorps, il y a certains des anticorps là qui circulent dans le sang après guérison. Même si c'est quelques années après, la même maladie peut venir. Les anticorps qui sont là, ils connaissent l'empreinte déjà de cette maladie. Ils vont réagir automatiquement pour l'éliminer. Donc tu ne peux pas faire la maladie. C'est ceux qui n'ont pas encore fait la maladie là, c'est eux qui vont s'inquiéter.
Beaucoup de malades guéris subissent le même sort, mais refusent de s'ouvrir aux médias. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'assouplissement des mesures combinées aux diverses polémiques autour de la fiabilité des tests de l'Institut Pasteur pousse de plus en plus de Sénégalais à négliger les mesures de prévention, notamment les gestes barrières. La communication gouvernementale n'aide pas aussi, et beaucoup de Sénégalais ne sont plus convaincus par les autorités, nous dit de Dakar Seydina Abagué.
Des familles qui refutent des tests post-mortem, des médecins qui auraient été testés positifs puis négatifs suite à la contestation des résultats, ces polémiques accentuent les doutes déjà présents chez une partie de la population qui ne croyait que moyennement à l'existence de la COVID-19. Et malgré les éclairages de l'Institut Pasteur, certains ne sont toujours pas convaincus. C'est le cas de Farah Ndiaye, diplômé de l'Université de Dakar.
Ils nous annoncent des décès et parmi ces décès, leurs familles nous disent qu'ils ne sont pas morts à cause du corona. Maintenant, les gens quand ils entendent ça, ils disent que est-ce qu'il y a vraiment cette maladie dans ce pays? Est-ce que ce n'est pas un lobby? Est-ce que ce n'est pas un deal entre le gouvernement et les étrangers? Parce que Macky Sall, il l'a dit dans son discours, que les Européens doivent annuler leurs dettes. Est-ce qu'ils ne se basent pas sur ce virus pour essayer d'annuler leurs dettes?
Pour Boubacar Kouyaté, l'existence du virus ne fait pas de doute car c'est une pandémie qui secoue le monde. Cependant, le jeune homme explique que les gens ne sont plus prêts à changer leur mode de vie car il y a une certaine lassitude autour des gestes barrières.
Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas arrêter aussi. Ça fait partie de nos valeurs, les rassemblements, la salutation. Ces derniers, même, j'ai constaté qu'ici, les gens ne se saluent même plus. Mais les rassemblements, on ne peut pas les arrêter. Il y en a aussi des Sénégalais qui croient en cette maladie et qui respectent aussi les mesures de barrière. Mais d'autres, par contre, les jeunes comme nous, en ce moment, par exemple, pour moi, j'en ai, je ne veux pas dire marre, mais voilà, j'en peux plus quoi, de porter les masques, de rester à la maison. C'est ça, en fait. Mais on sait que la maladie, elle existe et que ça tue. Mais en ce moment, voilà, on en a marre, quoi.
L'État a failli dans sa gestion de la crise en procédant à l'assouplissement des mesures. C'est l'avis du sociologue Momar Fall qui estime que la réaction de certains Sénégalais est assez logique.
En vérité, l'État ne devait pas d'un coup venir vers cet assouplissement. Cet assouplissement a été un reflet ou bien un signal qui pouvait s'analyser comme quoi que la maladie a commencé à disparaître et que l'État ne voulait pas tout dire. C'est ce qui se passe dans la tête des Sénégalais. Donc, dans la tête du Sénégalais lambda, il dit que donc il n'y a plus de problème. Et c'est ce qui est normal, c'est l'analyse qui s'y est. Mais en vérité, cette maladie peut être là, moi j'y crois. Mais pour le commun des Sénégalais, il va se dire dans sa tête que la maladie est en train de partir. Moi, je pense que c'est une faute de l'État, c'est une mauvaise politique de communication.
Le sociologue estime également que l'État doit davantage marquer la présence d'autres instituts afin de rassurer les Sénégalais sur la véracité des tests effectués. Il est aussi attendu un réajustement de la communication des autorités sanitaires et gouvernementales pour que les populations soient plus impliquées et conscientes du danger. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Pour limiter la propagation de la pandémie, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont fermé leurs frontières au point d'entrée de Goma et Gisenyi. Cette fermeture de frontières affecte négativement la vie quotidienne des populations à Goma. Les plus touchées sont ces femmes qui effectuent le commerce transfrontalier au niveau de cette barrière. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, est allé rendre visite à l'une d'entre elles.
Par jour, c'est entre 40 000 et 50 000 personnes qui traversent cette frontière entre Goma et Gisenyi. Depuis sa fermeture, pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus entre la RDC et le Rwanda, les commerces transfrontaliers effectués par les revendeurs à la criée a été suspendu entre ces deux villes. Une galère surtout pour ces milliers de femmes et les personnes à mobilité réduite pour qui la frontière était la seule source des revenus. Foura Marie-Claire, la quarantaine, exerce ici à la petite barrière depuis maintenant 15 ans. Elle a 5 enfants, handicapés depuis plus de 30 ans. C'est avec son tricycle qu'elle transporte des petits colis de produits manufacturés du Rwanda vers la RDC. Foura Marie-Claire.
Depuis l'annonce du coronavirus et la fermeture de la frontière, nous restons à la maison et c'est devenu compliqué. Nous vivions comme des journaliers au tout du jour. Nous traversions au Rwanda pour y acheter des petites marchandises pour lesquelles je bénéficiais des 5000 francs congolais par jour et je pouvais économiser un peu. Mais tout est fini.
Depuis le 26 mars dernier, la fermeture de la frontière lui a fait perdre ses faibles revenus qu'elle tirait dans les transports des marchandises entre Goma et Gisenyi. Elle s'est vue aussi bloquée dans ses petites activités commerciales et des produits vivriers. Pour elle, comme plus de 7000 autres membres de l'association des personnes vivant avec handicap moteur, exerçant les commerces transfrontaliers, la vie est devenue difficile. Son compagnon, lui, va jusqu'à proposer une médiation entre les deux gouvernements pour la réouverture de la frontière aux petits commerçants comme lui. Moutembere Zipol, la quarantaine, père de 3 enfants, transportèrent à la frontière Goma-Gisenyi. Je pense que notre gouvernement devrait collaborer avec le gouvernement du Rwanda pour voir si les mesures peuvent être allégées pour nous faciliter, nous les handicapés. Si ce n'est pas le cas, nous allons mourir tous à la maison. Mes enfants à la maison n'ont rien à manger.
Les commerces transfrontaliers entre Goma et la ville rwandaise de Gisenyi est parmi les voies de ravitaillement de la ville de Goma en vivres et autres produits. Certains transporteurs et petits commerçants réalisent entre 5 voire 10 tours par jour, certains pour des besoins commerciaux dans le cadre de la libre circulation des marchandises, mais aussi une autre catégorie pour des réseaux familiales, logés au Rwanda mais qui travaillent la journée côté congolais. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Avec vous, dans Washington Forum, environ 6 mois après la découverte des premiers cas du nouveau coronavirus, la majorité des pays qui avaient imposé des mesures strictes pour contenir la maladie ont amorcé un retour à la normale. Alors que Madagascar propose un traitement à base d'Artemisia, la course vers un vaccin est déjà amorcée dans plusieurs pays occidentaux. Nous faisons le point sur les mesures prises jusque-là pour lutter contre la pandémie et sur les traitements proposés ou en vue avec nos invités jeudi 28 mai 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Quatre agents de police de la ville de Minneapolis dans l'État du Minnesota impliqués dans la mort d'un noir qu'ils arrêtaient ont été licenciés mardi, quelques heures après qu'une vidéo d'un passant a été postée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on entend l'homme en question répéter plusieurs fois « I can't breathe », « je n'arrive pas à respirer », pendant qu'un agent de police blanc continuait de lui enfoncer le genou dans le cou. Cet incident vient remettre à jour la question des violences policières vis-à-vis des Noirs américains. Arzuma Compaoré s'est entretenu avec la liste politique René Lake, basé ici à Washington, pour en savoir davantage.
George Floyd lui-même, cette victime dont nous parlons, se met à dire qu'il ne peut pas respirer. Et ça rappelle bien entendu en 2014, Eric Garner qui 11 fois lui également a dit « je n'arrive pas à respirer ». Et bien entendu, malheureusement, le sort des deux a été le même. George Floyd aujourd'hui, Garner il y a 6 ans, tous les deux sont morts alors qu'absolument rien ne le justifie. Il n'y avait aucun acte de violence. Le racisme est dans pays extrêmement profond. Ça passe par l'éducation, la santé. On est en pleine crise du Covid. Comment expliquez-vous que plus de 40% des victimes soient justement des Noirs et des Latinos? Donc, le racisme dans ce pays est structurel, il est systémique. Et je crois qu'il faut qu'on prenne cela à bras le corps et il faut absolument que les choses changent. Ça ne peut pas continuer comme cela. Il y a des institutions qui devraient pouvoir garantir aux Noirs, aux Africains, aux êtres humains un minimum de protection, ne serait-ce que la protection de sécurité, la protection physique.
Aujourd'hui, avec justement le phénomène des smartphones un peu partout et tout le monde sort le téléphone à tout moment, on a maintenant mis le doigt sur la plaie. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une des façons que tout ça va changer, peut-être en intensifiant justement ce vigilante?
Oui, absolument. Et c'est là où vraiment la technologie nous sert énormément. Et c'est pour ça que je suis confiant, parce que bon, le monde, les choses progressent. Hein. La situation du racisme aujourd'hui, elle est moins violente et moins criarde, comme je le disais, que par le passé. Les choses vont dans la bonne direction, mais c'est beaucoup trop lent. Et c'est sûr que la technologie, de ce point de vue-là, aide. Imaginez la situation de George Floyd. S'il n'y avait pas eu les différentes vidéos, celles des passants d'abord, ensuite celles des magasins magasin qui était à côté, qui a pu la caméra de surveillance, qui a pu filmer la scène qui précède le moment où il a le genou sur le cou. Si on n'avait pas eu ces caméras là, eh ben on s'en serait tenu à la déclaration, à la fausse déclaration, au mensonge et à la manipulation du département de la police. Et puis bon, là on serait passé, ça serait passé en perte et profit. On n'en aurait plus parlé. Donc c'est sûr que les nouvelles technologies aident beaucoup dans la dénonciation de ces actes racistes absolument énormes.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevudia et de Lionel Gahima. à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.